Sur l'animal complexe et sa partie corporelle, sur la façon dont il faut qu'un homme la dirige et s'en laisse diriger pour mener la vie la plus conforme à la raison, je me bornerai à ce que je viens de dire. Mais le point le plus important et le plus pressant, c'est d'appliquer toutes ses forces à rendre la partie destinée à gouverner aussi belle et bonne que possible en vue de son office de gouvernante. Le traitement détaillé de cette question fournirait à soi seul la matière d'un ouvrage à part, mais il n'est pas hors de propos de la traiter incidemment. Suivant les principes établis précédemment, et de conclure ainsi notre discours par les observations suivantes. Nous avons dit souvent qu'il y a en nous trois espèces d'âmes logées en trois endroits différents, et qu'elles ont chacune leurs mouvements séparés. Il nous faut dire de même à présent, d'une manière aussi brève que possible, que si l'une d'elles reste oisive et n'exerce pas les mouvements qui lui sont propres, elle devient nécessairement très faible, et que celle qui s'exerce devient très forte. Il faut donc veiller à ce que leurs mouvements soient proportionnés les uns aux autres. De l'espèce d'âme qui a la plus haute autorité en nous, voici l'idée qu'il faut s'en faire, c'est que Dieu nous l'a donnée comme un génie, et c'est le principe que nous avons dit logé au sommet de notre corps et qui nous élève de la terre vers notre parenté céleste, car nous sommes une plante du ciel, non de la terre. Nous pouvons l'affirmer en toute vérité. Car Dieu a suspendu notre tête et notre racine à l'endroit où l'âme fut primitivement engendrée et a ainsi dressé tout notre corps vers le ciel. Or, quand un homme s'est livré tout entier à ses passions ou à ses ambitions, et applique tous ses efforts à les satisfaire, toutes ses pensées deviennent nécessairement mortelles, et rien ne lui fait défaut pour devenir entièrement mortel, autant que cela est possible, puisque c'est à cela qu'il s'est exercé. Mais lorsqu'un homme s'est donné tout entier à l'amour de la science et à la vraie sagesse, et que parmi ses facultés, il a surtout exercé celle de penser à des choses immortelles et divines, s'il parvient à atteindre la vérité, il est certain que, dans la mesure où il est donné à la nature humaine de participer à l'immortalité, il ne lui manque rien pour y parvenir. Et comme il soigne toujours la partie divine et maintient en bon état le génie qui habite en lui, il doit être supérieurement heureux. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule manière de soigner quelque chose, c'est de lui donner la nourriture et les mouvements qui lui sont propres. Or, les mouvements parents de la partie divine qui est en nous, ce sont les pensées de l'univers et ses révolutions circulaires. C'est sur elle que chacun doit se modeler et corriger les révolutions relatives au devenir qui se font dans notre tête d'une manière déréglée, en apprenant à discerner les harmonies et les révolutions de l'univers, en rendant la partie qui pense semblable à l'objet de sa pensée, en conformité avec sa nature originelle, afin d'atteindre, dans le présent et dans l'avenir, à la perfection de cette vie excellente que les dieux ont proposée aux hommes.